Vous êtes bien sûr Radio Orient, il est midi, le journal François-Xavier de Calonne. La peintre et poète libanaise Etel Adnan est morte. Elle était âgée de 96 ans au micro de Radio Orient. Elle était notamment revenue sur son apprentissage du français à Beyrouth. Nous écouterons cette archive. Quel bilan après la conférence internationale sur la Libye vendredi à Paris? Le but était d'encourager le processus qui doit permettre l'organisation d'une présidentielle le 24 décembre, puis des législatives un mois plus tard. Notre invité sera Emmanuel Dupuis, président de l'Institut Prospective et Sécurité en Europe. Le Conseil français du culte musulman et la Grande Mosquée de Paris ont chacun annoncé hier la création prochaine de leur propre Conseil national des imams, instance voulue par le gouvernement pour restructurer l'islam de France. À l'approche de la présidentielle en France, une soixantaine d'associations fait entendre sa voix avec le pacte du pouvoir de vivre. L'idée de peser ensemble dans le débat politique que nous trouvons délétère, propos signé Daniel Goldberg, l'ancien député socialiste, aujourd'hui président en Île-de-France de l'Union régionale interfédérale des œuvres et organismes privés sanitaires et sociaux, sera l'un de nos invités. L'invité de Pluriel à 19h et 23h sera Benjamin Lucas, coordinateur national de Génération, porte-parole de la campagne présidentielle de Yannick Jadot et conseiller régional dans les Hauts-de-France, extrait dans votre journal. La mort de la peintre et poète libanaise Etel Adnan. Elle était âgée de 96 ans. Etel Adnan est née en 1925 à Beyrouth d'un père syrien musulman et d'une mère grecque chrétienne. Parmi ses ouvrages, ce roman cite Marie-Rose sur la guerre civile libanaise, roman traduit dans une dizaine de langues et distingué par le prix France Pays Arabes. L'ancien ministre de la Culture, Jack Lang, président de l'Institut du Monde Arabe, salue la mémoire d'une âme poétique et coloré. Suite à son décès, je vous propose d'écouter cette archive au micro de Radio Orient. Elle était notamment revenue sur son apprentissage du français à Beyrouth et à Annan.
Moi, j'ai appris le français à Beyrouth du temps du mandat, dans les années 30. Et à ce moment-là, le français était enseigné contre la langue arabe, c'est-à-dire que dans les écoles religieuses où les enfants allaient, on punissait les enfants qui parlaient arabe. C'était quand même, je trouve, une position extrême. Les choses ont un peu changé, bien sûr, mais il reste comme un sous-entendu dans l'enseignement du français à Beyrouth, du moins, que la langue arabe n'est pas adéquate pour le monde moderne, qu'on ne peut pas faire, par exemple, des mathématiques en arabe. Je trouve cela aberrant de dire cela d'une langue dans laquelle l'algèbre a été inventée, de grands mathématiciens comme Al-Kindi ou Avicenne lui-même ont fonctionné, ou Omar Khayyam, c'était de grands mathématiciens. Quand il y a eu l'apport à l'astronomie par les astronomes arabes. Donc on ne peut pas dire de l'arabe ou d'aucune langue d'ailleurs qu'elle n'est pas adéquate à la pensée. Les langues sont aussi ce que l'être humain le fait. Les langues nous appartiennent, c'est les êtres humains qui les ont créées et elles dépendent du degré de culture des gens qui les emploient. La langue française est une langue universelle, c'est-à-dire qu'elle n'appartient pas qu'au français. Elle a été, par exemple, au XIXe siècle, enseignée dans les milieux littéraires russes ou même ottomans. Et c'est un privilège, c'est intéressant de connaître le français comme il est intéressant de connaître le russe ou l'anglais. Je n'aurais jamais lu Rimbaud dans l'original ou Baudelaire si je ne connaissais pas le français. Toute langue qu'on connaît, à part sa langue maternelle, est un plus, est un enrichissement. Le français lui-même, comme l'anglais, comme toutes les langues, ont besoin d'un enrichissement. Et cet enrichissement est souvent apporté par les gens, disons, venus du dehors ou de groupes autrement méprisés.
La peintre et poète libanaise Etel Adnan, décédée hier à l'âge de 96 ans, elle avait accordé plusieurs entretiens à Radio Orient, dont cette archive. L'un des fils de l'ex-dirigeant libyen Muammar Kadhafi, Saif al-Islam, a déposé sa candidature à la présidentielle prévue le 24 décembre prochain. Ces élections présidentielles puis législatives sont censées tourner la page d'une décennie de chaos depuis la chute du régime de Muammar Kadhafi, tué en 2011. Une candidature au surlendemain de la conférence internationale sur la Libye. Le bilan de cette réunion internationale avec Emmanuel Dupuis, le président de l'Institut Prospective et Sécurité en Europe Entretien.
Le verre est à moitié rempli, puisque initialement, cette conférence n'avait pas autant d'objectifs que ceux qui ont été annoncés, en tout cas qui ont été présentés comme des annonces assez inattendues, inespérées, même de la part du président Emmanuel Macron. Premièrement, cette conférence s'inscrivait comme une séance de rattrapage des deux précédentes conférences. D'ailleurs, les deux précédentes conférences étaient des conférences à l'initiative allemande, janvier 2020, puis le 23 juin 2021, donc c'était la troisième conférence de ce format. La chancelière Angela Merkel a rappelé que désormais la configuration de la triangulation diplomatique, Mario Draghi pour l'Italie, Emmanuel Macron pour la France et la chancelière allemande et son successeur Olaf Scholz pour l'Allemagne, fonctionnait. Donc d'une certaine manière, c'était une façon de rappeler que les Européens sont unis, en tout cas qu'il n'y a plus de dissonance entre la politique étrangère française et italienne, puisque c'était là que la friction était la plus forte. Donc le formalisme était d'importance. Ensuite, la présence d'une vingtaine de chefs d'État et de gouvernement était inespérée, mais d'une certaine manière, c'est parce que ces chefs d'État et de gouvernement étaient invités en même temps pour le Forum de Paris pour la paix qu'ils se sont déplacés. Il n'y aurait sans doute eu moins de chefs d'État et de gouvernement s'il n'y avait pas eu ce forum. Troisième élément, même si cette conférence est une réussite, en tout cas il n'y a pas eu d'anicroche, il n'y a pas eu de décrochage, ou en tout cas de dissension, il y a néanmoins un aléa qui n'a pas été dépassé, l'absence remarquée des trois personnalités importantes, en l'occurrence le président Recep Tayyip Erdogan, et puis l'absence remarquée de Vladimir Poutine, qui n'avait délégué que son ministre des Affaires étrangères, Sergei Lavrov. La troisième absence, et non des moindres, est celle d'Abdelmadjid Tebboune, mais là c'est plus une configuration de dissonance entre la France et l'Algérie dont il faut tenir compte.
Pourquoi ces élections à venir, l'élection présidentielle puis les élections législatives, sont-elles un élément fondamental pour la sortie du chaos de la Libye?
Parce que le processus de l'alternance politique passe par un processus électoral. Le gouvernement donc d'union nationale, qui a succédé au gouvernement d'accord national, après un vote qui a réuni les 74 délégués libyens qui se sont réunis à Genève en février 2021, n'a fait que nommer un gouvernement intérimaire, un conseil présidentiel composé de 4 hommes sous la direction de Mohamed Al-Mefi et puis un premier ministre, Hamid Dabeiba, mais avec une légitimité qui évidemment est limitée dans le temps. D'ailleurs, la levée de l'option de la candidature éventuelle d'Hamid Dabeiba n'a pas été totalement soulevé, puisque Hamid Dabeiba n'a pas dit qu'il serait candidat, mais il n'a pas dit non plus que quelqu'un qui appartient à l'actuel gouvernement ne pourrait ne pas l'être. Donc il y a évidemment un processus dès la fin d'un cycle, 10 ans, en l'occurrence c'est la raison pour laquelle le scrutin électoral doit se tenir symboliquement en 2021, 10 ans après la chute de Muammar Kadhafi, les Libyens veulent revenir à un élément de stabilité qui fait que ces élections sont non seulement les premières élections libres depuis la chute de Muammar Kadhafi, mais surtout depuis que Muammar Kadhafi a pris le pouvoir en 1969. Donc il y a une volonté d'inscrire l'alternance politique à travers un processus politique électoral qui passe par la case électorale.
Saif al-Islam, le fils du dirigeant libyen déchu Muammar Kadhafi, a présenté hier dimanche sa candidature officielle à l'élection présidentielle. Comment cette candidature est-elle susceptible d'être perçue par l'opinion libyenne?
Tout dépend de l'endroit où l'opinion libyenne se situe. Il me semble qu'actuellement, quelques heures après l'annonce de cette candidature, il y a d'une part ceux qui se satisfont ou qui sont heureux de cette candidature, qui somme toute était logique dans la filiation donc de ce que beaucoup perçoivent comme une nécessaire nostalgie par rapport à la chute de Muammar Kadhafi, et donc la lignée historique, la filiation Kadhafi. D'ailleurs, le maréchal Khalifa Haftar incarnait cette filiation. Peut-être qu'il y a là soit un hiatus qui va être grandissant entre les deux hommes, par rapport à cet héritage kadhafien, ou alors il y aura un ticket gagnant, ou un ticket qui pourrait être gagnant entre le maréchal Haftar et Saïf al-Islam Kadhafi. Deuxième élément, la candidature de Saïf al-Islam advient dans une zone particulière, qui est la zone qui est un petit peu délaissée dans l'opposition frontale entre ceux qui soutiennent l'Est libyen, donc les amis du maréchal Haftar, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, la Russie, singulièrement la France, même si elle ne le valide pas comme tel, et puis bien évidemment la légitimité autre internationale, celle de l'ONU, qui a son siège à Tripoli, l'annonce à Sebha, dans la capitale des Toubous, donc la milice puissante, parce que puissamment armée, dans la région du Grand Fezzan, est assez agile de la part de Saïf al-Islam, en montrant que non seulement il est l'héritier de la lignée Kadhafi, non seulement qu'il est un homme des milices, qu'il veut se présenter comme n'étant ni l'homme de Tripoli, enfin, ni avec le soutien de Tripoli, ni avec le soutien de Benghazi, mais avec, évidemment, des acquaintances avec les uns et les autres, évidemment, cela pourrait faire sens. Néanmoins, dans les heures qui ont suivi l'annonce de la candidature, on a certes entendu de la liesse ou de la ferveur populaire, plusieurs sondages, mais il faut les prendre avec beaucoup de précaution, font de Saïf al-Islam celui qui serait le plus à même de gagner les élections présidentielles si elles ont bien lieu le 24 décembre, 60 et 80% de sentiments, d'appréciation favorable, mais il y a des voix dissonantes, très dissonantes. Khalid El-Meshri, le président du Haut Conseil d'État, proche des frères musulmans, a publiquement dit tout le mal qu'il pensait de cette candidature, ouvrant une autre perspective. Il se peut que Saïf al-Islam, qui a finalement décidé de faire son annonce malgré les menaces qui pesaient sur sa candidature, pourrait tout simplement être invalidé par la commission électorale qui, je le rappelle, siège encore à Tripoli.
Emmanuel Dupuis, président de l'Institut Prospective et Sécurité en Europe. 4 soldats maliens ont été tués hier dans une attaque imputée aux djihadistes dans le nord-est de Bamako. Cela s'est passé près de la frontière mauritanienne. L'armée a aussi fait état de 14 blessés et de 6 assaillants abattus. Un général et 4 soldats de l'armée syrienne ont été tués hier dans l'explosion d'une bombe. Cela s'est passé dans l'est de la Syrie. Une attaque au lendemain de la mort de 13 combattants pro-régime. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, une bombe a explosé lors du passage d'un véhicule dans lequel se trouvaient les 5 militaires. Le Liban a reçu ce lundi une aide en matériel médical d'une valeur d'1 million d'euros, une aide de la France dans le cadre de son soutien au pays du Cèdre. Le Liban, frappé par une très grave crise socio-économique et financière et par de multiples pénuries. Le Conseil français du culte musulman et la Grande Mosquée de Paris ont chacun annoncé hier la création prochaine de leur propre Conseil national des imams. La Grande Mosquée et les 3 fédérations qui ont quitté le bureau exécutif du CFCM en mars ont annoncé leur volonté de fonder ce conseil qui doit labelliser les imams exerçant en France, comme souhaité par l'exécutif, dans le cadre de sa lutte contre l'islam radical. Le CNI sera créé lors d'une assemblée générale dimanche prochain. Le CFCM a réagi en annonçant lui aussi la création d'un conseil national des imams et il appelle l'ensemble des instances départementales du culte musulman à se réunir en congrès le 12 décembre prochain pour sa mise en place effective. 64 associations veulent peser sur la présidentielle et lancent le pacte du pouvoir de vivre. Parmi ces organisations, la CFDT, la Fondation Abbé Pierre, la CIMAD ou encore la Fondation Nicolas Hulot et l'Union Interfédérale des œuvres et organismes privés sanitaires et sociaux. Ces ONG présentent 90 propositions qui portent notamment sur les sujets économiques, sociaux, environnementaux ou de démocratie. Entretien avec l'ancien député socialiste, aujourd'hui président en Ile-de-France de l'Union régionale interfédérale des œuvres et organismes privés sanitaires et sociaux, Daniel Goldberg.
Quantité de sujets, finalement, recoupent le champ social, le champ environnemental et le champ démocratique, je dirais. Cette semaine, il y avait la journée sur la précarité énergétique. Quand on parle de précarité énergétique, évidemment, il y a une question sociale pour des gens qui n'ont pas les moyens de se chauffer. Il y a évidemment une question environnementale parce qu'il faut dépenser beaucoup plus d'énergie dans les passoires thermiques quand les logements sont mal isolés. Donc, c'est une question environnementale. Et puis, il y a une question démocratique aussi parce que, finalement, comment est-on au courant des dispositifs qui peuvent permettre des aides? Eh bien, c'est souvent celles et ceux qui sont le plus en difficulté, qui n'ont pas les informations. Donc vous voyez, sur un sujet comme celui-là, eh bien, les 3 champs, environnement, social et citoyen se recoupent. Et de 19 organisations en mars 2019, bien nous sommes aujourd'hui plus de 60, comme vous l'avez dit, de manière très large. Il y a aussi des associations qui combattent sur le sujet de la défense des droits des migrants. Il y a une large partie des acteurs du logement social. La Fondation Abbé Pierre elle-même était à l'origine avec l'UNIOPS aussi de ce rassemblement. Et l'idée, c'est vraiment de peser ensemble aujourd'hui dans le débat et dans un débat politique que nous trouvons délétère en tant qu'acteurs de terrain.
Vous estimez que cette campagne prend une mauvaise tournure? Les questions identitaires, les questions liées à la sécurité qui sont aujourd'hui très largement mises en lumière, aux dépens, selon vous, des questions qui concerneraient peut-être plus directement les Français, comme les sujets liés au pouvoir d'achat et à la solidarité, par exemple?
Évidemment. Alors après, la sécurité, c'est un vrai sujet, hein. Moi, je suis pour qu'on débatte d'une meilleure sécurité, en particulier... Vous savez, je suis issu de Seine-Saint-Denis, en particulier dans les quartiers populaires, parce que finalement, c'est aussi les habitants des quartiers populaires qui sont les premières victimes de l'insécurité. Mais parler de sécurité, ce n'est pas parler comme le fait, par exemple, M. Zemmour ou d'autres, avec des recettes faciles, avec une exacerbation des conflits, avec dresser les Français les uns contre les autres, et en plus refaire l'histoire en faisant passer le régime de Vichy comme un régime démocratique. Donc évidemment que parler de sécurité, pour nous, ce n'est pas cela. Et en plus de ce point sur la sécurité, il faut évidemment parler de la fin du mois, de ce qu'on appelle la fin du monde, et puis j'ajoute... Moi, j'aime bien parler de fin démocratique, mais je l'écris FIM, c'est-à-dire l'envie de participer des citoyens. On est dans une situation, au lendemain de l'épisode le plus dur de la pandémie, on verra ce que nous réserve l'évolution du Covid dans les semaines qui viennent, mais après ce que nous avons vécu, on a beaucoup parlé du monde d'après, je n'ai pas l'impression de voir beaucoup de différences sur les objectifs principaux qui sont mis sur la table, y compris ces derniers jours.
L'ancien député social aujourd'hui président en Île-de-France de l'Union régionale interfédérale des œuvres et organismes privés sanitaires et sociaux, Daniel Goldberg. L'invité de Pluriel à 19h et 23h sera Benjamin Lucas, coordinateur national de Génération, porte-parole de la campagne présidentielle de Yannick Jadot et conseiller régional. Dans cette émission, il réagit à la une du Figaro magazine intitulée « École, comment on endoctrine nos enfants ?» Benjamin Lucas.
Bon, alors cette couverture, elle est non seulement grossière et pathétique, mais je crois qu'il faut pas la prendre à la légère. La pression aujourd'hui qui est exercée par beaucoup dans la classe politique pour surveiller, censurer, intimider les enseignants et les universitaires est colossale. Et c'est toujours la même méthode qui est celle de l'extrême droite et finalement des contre-révolutionnaires. C'est de faire croire qu'il y a un endoctrinement, qu'il y a une pensée unique pour mieux endoctriner justement et pour mieux imposer sa pensée. Moi je crois qu'il faut faire bloc autour de la communauté éducative pour défendre sa liberté d'enseignement, pour défendre aussi une école républicaine. Parce qu'en fait, de quoi parle-t-on? On parle du fait d'enseigner à l'école l'égalité entre les femmes et les hommes. On parle du fait de combattre à l'école contre les discriminations et l'homophobie. On parle de lutter à l'école contre le racisme, l'antisémitisme, la haine. Eh bien moi, j'en suis très fier que l'école de la République, elle soit justement une école républicaine qui mette en pratique ce qu'est la devise de la République, liberté, égalité, fraternité. C'est très dangereux ce qui se passe. Et d'ailleurs, Monsieur Blanquer et Madame Vidal, avec tout leur délire sur l'islamo-gauchisme, le wokisme, sur un ensemble de termes, soit qu'ils inventent, soit qu'ils ne maîtrisent pas, ont aidé, ont accompagné la fachosphère dans son travail de casse, finalement, d'offensive contre l'école républicaine. C'est extrêmement dangereux, et en tout cas, nous voulons faire bloc avec toute la communauté éducative pour la défendre dans un moment où elle est attaquée. On voit bien que l'école, là, est un symbole pour celles et ceux qui, finalement, veulent fracasser ce que sont les valeurs de la République.
Benjamin Lucas, coordinateur national de Génération, porte-parole de la campagne présidentielle de Yannick Jadot, conseiller régional dans les Hauts-de-France, invité de Pluriel à 19h et 23h, émission préparée et présentée par Loïc Barrière. Fin de cette édition, vous êtes bien sûr Radio Orient, à 12h30 votre journal en langue arabe. J'aurai le plaisir de vous retrouver à 15h pour votre flash, 17h30 pour le journal. Très bon début d'après-midi à l'écoute de Radio Orient, bientôt midi 20.